Les fonds activistes qui s'invitent au capital des entreprises pour leur mettre la pression, tout ça est de plus en plus présent. Leur action, elle est parfois légitime, pas toujours, mais en tout cas, elle n'est pas toujours. Mais elle peut être aussi créatrice de valeur. Bonjour Laurent.
Bonjour David.
Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce qu'il faut les suivre?
Ah, alors, effectivement, c'est une question de fond. Comme vous le dites, ils sont de plus en plus présents, de plus en plus actifs. On rappelle peut-être un petit peu ce que c'est un fonds activiste, c'est-à-dire ce sont des investisseurs, en général, effectivement, au sein d'un fonds, qui vont chercher à influer sur la direction d'une société, sur la gouvernance, et bien entendu à travers le cours de bourse. Warren Buffett, investisseur émérite, disait que quand un fonds activiste, enfin des activistes, arrivent dans une entreprise ou s'y intéressent, c'est que la direction de l'entreprise avait sans doute oublié pour qui elle travaillait. Tiens, au fond, c'est toute la question de l'actionnariat. Quand une entreprise décide d'aller en bourse, en fait, elle va quelque part, elle accepte de perdre le contrôle sur une partie de son actionnariat. Donc, en contrepartie, on pourrait s'imaginer que les actionnaires qui, eux, sont rentrés dans le capital, donc ont un pouvoir, c'est souvent pas le cas. Quand on est actionnaire minoritaire, c'est pas toujours le cas. Donc, on a demandé à notre journaliste Jean-Jacques Manceau de faire un petit peu le point sur tout ça, avec le talent qu'on lui connaît, et de regarder au fond, finalement, de répondre à votre question. C'est vrai que la stratégie activiste, en fait, alors certains considèrent que les activistes ont une fonction utile dans l'écosystème financier. Parce qu'en fait, ils cherchent effectivement, ils s'intéressent à des cibles où il y a des choses qui ne marchent pas. Une équipe de direction qui ne fonctionne pas bien, une gouvernance qui défaille, des inefficiences, un cours de bourse qui ne semble pas adapté au potentiel de l'entreprise. Les activistes, ils vont avoir au départ des revendications précises, ils vont essayer de regrouper à la fois les petits actionnaires et puis peut-être d'autres fonds ou des institutionnels qui ont finalement le même point de vue et essayer d'influer. Alors ça passe souvent par le cours de bourse, ce qui fait qu'en fait, dans un premier temps, on sent bien que les intérêts ne sont pas alignés parce que les dirigeants, enfin dire les propriétaires majoritaires et dirigeants d'entreprise, eux, ils ont une vision de long terme. Les activistes vont avoir une vision de court terme puisqu'en fait, leur principal moyen d'action, c'est le cours de bourse. Ça peut bien sûr ensuite évoluer dans le temps. Mais alors, dans le cas extrême, qui est le plus courant, celui qu'on connaît, on va dire le plus médiatique, les activistes vont vendre à découvert l'action. Ils vont la shorter, comme on dit dans le métier. Ce qui est paradoxal, on se dit, ah bon, mais s'ils veulent l'intérêt de l'entreprise, faire baisser le cours de bourse, ça semble un petit peu paradoxal. Ça va être un moyen d'action. Notamment parce que bon, l'opinion publique s'intéresse plus en général aux mises en garde qu'aux choses qui marchent.
D'autant que si la cour de l'action baisse, vous le disiez, mais c'est plus dans l'intérêt des actionnaires. À court terme, tout du moins à court terme.
Alors voilà, c'est-à-dire que est-ce que les activistes sont des lanceurs d'alerte et ils sont en mission, donc peut-être en partie, hein, sur des entreprises qui marchent pas bien, où la gouvernance pose problème. Alors, que nous disent un petit peu les études là-dessus? En général, alors, il y avait une étude qui avait été faite en Europe fin 2022, sur les... Alors là, c'était vraiment les vendeurs à découvert et activistes extrêmes. Et là, on voit, enfin, globalement, on voit que dans ce cas de figure précis, le cours de bourse, que ce soit 3 jours après, 2 mois après ou 6 mois après, il va beaucoup moins bien. Bon, avec des ordres de grandeur qui sont, voilà, qui vont de moins 5, moins 10 jusqu'à moins 25. Alors, c'est vrai que globalement, si on prend les statistiques dans le monde entier, ça va être vers à moitié vide, vers à moitié plein. Dans près de la moitié des cas, des sociétés qui ont été ciblées par des vendeurs à découvert, alors à la fin, soit le cours de bourse a beaucoup souffert, soit ils ont fait faillite, soit ils sont sortis de la bourse. Enfin, il s'est vraiment passé quelque chose qui n'est pas forcément dans l'intérêt de l'actionnaire.
Ouais, mais il y a quand même des cas qui sont plus positifs, j'imagine. J'ose
Oui,
espérer.
alors voilà. Donc en fait, si on regarde le verre plutôt à moitié plein,
Voilà,
qui
c'est
est
mieux.
plus que moitié plein, en fait, la grande majorité des campagnes, effectivement, ne visent pas en fait à faire forcément chuter le titre en bourse, ni d'ailleurs la
C'est
société,
pour faire
mais
bouger
à
le management.
intervenir, voilà, sur la stratégie, à faire changer la stratégie et la gouvernance pour, en gros, donc créer de la valeur, puisque en fait c'est ça l'objectif, en tout cas invoqué, créer de la valeur. Alors souvent il y a des histoires de fusion-acquisition, c'est-à-dire on considère que le groupe devrait se rapprocher d'un tel, acheter un tel, être racheté par un tel, etc. Si on prend le cas français avec des sociétés qu'on connaît bien. Si on regarde récemment, on va dire sur les, allez, presque les 10 dernières années, on pense qu'à peu près 20% des entreprises du CAC 40 ont été à un moment ou à un autre influencées par des stratégies de ce genre. Alors, il y a des cas précis qu'on connaît, enfin, il y a Casino, Lagardère, Pernod Ricard quelques années avant, il y a eu Safran, Saint-Gobain, et puis dans la cote, enfin, dans les valeurs moyennes, il y a aussi des exemples qui sont illustrés avec Solutio 30 et SOS Imago Tag, où là, effectivement, il s'est passé des choses assez importantes sur le cours de bourse. Alors, ça intéresse les pouvoirs publics aussi, parce qu'il y a eu en 2019 un rapport parlementaire qui a été fait par Éric Woerth, ancien ministre du budget, en tant que député de l'Oise et donc rapporteur sur cette mission. Bon, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on va encadrer, comment est-ce qu'on peut encadrer l'action des fonds activistes. Et ça, effectivement, c'est difficile. Mais en réalité, en soi, c'est pas gênant que les actionnaires cherchent à être actifs. Alors, l'exemple qui était dans l'esprit de tout le monde à l'époque, c'était Pernod Ricard, parce que fin 2018, le fonds Elliott Management, alors que Pernod Ricard avait très bon résultat, avait acquis 2,5% du groupe de boissons alcoolisées et considérait que, au fond, Pernod Ricard pouvait mieux faire, que les marges n'étaient pas assez bonnes, que la performance du groupe n'était pas à la hauteur de son potentiel. Et donc, enfin, là, c'est un cas de figure positif, on va dire, puisque en fait, il y a eu des discussions et en réalité, Pernod Ricard a légèrement rectifié à la fois son plan stratégique et puis a mis en place une nouvelle gouvernance. Donc ça, c'est un cas de figure plutôt positif.
Bon, quelle est la tendance dominante en ce moment sur le marché ?
Alors, c'est difficile sur le constat. On va dire que globalement, quand on regarde en tout cas les chiffres américains, parce que bon, l'activisme, c'est quand même surtout un truc américain ou anglo-saxon, on va dire, avant d'être devenu français ou européen. Globalement, quand on regarde les statistiques du gendarme boursier américain, la SEC, on voit que chaque fois qu'il y a eu des opérations, sur les 20 dernières années, ça s'est plutôt traduit par une création de valeur. Mais en fait, c'est difficile de faire la part des choses, parce que si vous prenez les 20 dernières années, je crois arrêter à, c'était 2017, sur le marché américain, faire la part des choses, il y a aussi la performance du marché par lui-même. Et si on regarde en Europe, on voit globalement, sur l'institut de 2017, qu'il y aurait effectivement, dans la plupart des cas, des sorties plutôt positives. Alors, mais bon, ça peut être parfois très douloureux. On a des exemples en tête entre, par exemple, 2018-2021, c'était le cas de Lagardère. Un fonds qui s'appelle Amber Capital, basé à Londres, qui acquiert jusqu'à 18% du capital du groupe, et qui, alors là, fait une campagne publique, vous vous en souvenez, quand même assez forte, un dépôt de plainte pour alors achat de vote, abus de biens sociaux, compte inexact, information fausse ou trompeuse contre la société, ça c'était avril 2021. Et bon, la suite de l'histoire, on la connaît, c'est qu'en fait, la famille Lagardère a perdu le contrôle du groupe au profit de Vincent Bolloré. Il y a eu un autre cas, alors plus récent, tout près, on est encore dedans, c'est Casino. En fait, on a oublié que le fonds américain Muddy Waters avait, dès 2015, en fait, alerté sur l'endettement excessif de Casino. Oui. Le cours avait dévissé lorsque Muddy Waters avait dit qu'en gros le cours de bourse était nettement surévalué par rapport à son cours réel à cause de l'endettement. Jean-Charles Naouri à l'époque n'avait pas modifier sa stratégie, et donc ça s'est, pour le coup, plutôt mal terminé, tout s'est dégradé, et puis après, il y a eu le mur de la dette avec la remontée des taux.
Sur 2024, quelles sont les perspectives, là ?
Alors, en fait, on pense qu'a priori, 2024 aurait plutôt confirmé la tendance, c'est-à-dire qu'il y a une étude récente de la Banque Lazare sur l'Europe qui nous montre qu'effectivement, c'est devenu aussi un vrai phénomène européen, même si les gros acteurs de ce marché sont américains. Hein, je crois que les 5 plus gros requins, on va dire fonds requins, ils font à peu près 100, ils ont une puissance de frappe de 100 milliards de dollars. Mais dans certains cas, alors c'était un fonds anglais, mais on n'oublie pas que le PDG de Danone, Emmanuel Faber, il a quand même perdu son poste parce qu'il y avait un fonds qui trouvait que les résultats étaient insuffisants, alors qu'il y avait une toute petite participation dans le capital. Et en fait, en Europe, maintenant, on a beaucoup de campagnes. Je crois qu'il y a un chiffre, une statistique, ça fait à peu près 5 campagnes activistes par semaine. Donc, c'est quand même important. Alors, en fait, on pense qu'il va y avoir un rebond.
C'est quoi le conseil qu'on donne pour ceux
Alors, le conseil qu'on donne, c'est... alors. Déjà, je réponds à votre question, c'est-à-dire qu'effectivement, rebond probable des opérations avec, des taux d'intérêt qui peuvent baisser, donc qui facilitent les opérations. Et puis, alors, il y a un exemple récent, c'est là, mi-février, on a vu Criteo, la société de publicité digitale française, cotée au Nasdaq, attaquée par un fonds britannique, je crois, Pedrus Advisors. Et là, en fait, pareil, demande de changement de stratégie, de changement de, enfin, d'obtenir des postes au conseil d'administration, etc. Récemment encore, il y a aussi Atos, parce qu'il y a le fonds Siam qui saute s'oppose au fait que Daniel Kretinsky reprête une partie du groupe à ce prix-là. Il y a aussi l'activisme ESG qui ne donne pas grand-chose pour le moment, mais qui continue à pousser.
Je crois qu'il y a plus de parler que les négociations sont arrêtées d'ailleurs entre Atos
oui,
et Kretinsky.
Voilà, tout à fait. Alors, en fait, et là je réponds à votre question, il faut plutôt, quand il y a un vendeur à découvert extrême qui intervient sur une valeur, on a plutôt envie de rester à l'écart, parce que quand même dans beaucoup de cas, ça ne se termine pas toujours bien, en tout cas pour l'actionnaire, s'il a eu un prix de revient et si l'action a un prix de revient très élevé. Donc il faut en tout cas être attentif à ça, parce qu'en tout cas, c'est une période de turbulence assurée, et donc ça n'empêche pas sur le fondamental de rester acheteur sur la valeur, mais sur des dossiers comme par exemple Lagardère ou Casino, ou même Danone d'une certaine manière, voilà, dans ces périodes-là, ce sont des périodes de turbulence, et donc on ne sait pas comment ça va se terminer.
Bon, on regarde la une aussi, Laurent, du revenu de ce week-end.
Alors,
qu'est-ce qu'on peut y lire ?
Oui, alors, comment bien vendre en viager, puisque c'est un sujet qui est devenu, effectivement beaucoup pratiqué. On a une interview exclusive de Michel Aglietta à l'occasion de son livre sur une nouvelle écologie politique, co-écrit. Et puis, on revient un petit peu sur l'environnement, c'est-à-dire à la fois la dynamique haussière incroyable dont vous parliez, et puis le fait que tout le monde attend cette baisse des taux directeurs qui devrait finir quand même pas arriver, enfin au moins en Europe, avec quelques valeurs clés, et notamment notre conseil d'achat gagnant de Vallourec, très intéressé, que le dossier, donc dossier qui intéresse beaucoup Arcelor Mittal, et donc ça a encore propulsé l'action.
Voilà, tout ça à lire et bien plus dans le Revenu Hebdo de cette semaine. Merci Laurent.
Merci David.
Laurent Saillard, journaliste au Revenu.